Lambert Mende, bonjour.
Bonjour.
Le ministre de la Justice a dernièrement présenté la position du gouvernement sur la publication du rapport Mapping. Qu'est-ce que vous venez compléter par rapport à ce que votre collègue a dit précédemment?
Mais nous disons la même chose, hein. Nous sommes dans un même gouvernement. Il n'est pas interdit de communiquer, surtout à des époques différentes, par rapport à un événement aussi important que celui-là. Quelque temps après, le ministre ayant réagi à chaud, non, nous avons pris un peu le temps d'approfondir certains aspects, c'est tout. Nous l'approuvons, mais nous disons mais. C'est un oui mais, exactement comme le ministre de la Justice l'a dit.
Envisage de faire le gouvernement après la publication du rapport?
Le gouvernement va assumer pleinement sa responsabilité, c'est-à-dire étudier ce qui est positif dans le rapport, juxtaposer à notre propre position des formules qui nous permettent de répondre à la plupart des questions que pose le rapport.
Dans ce rapport, les auteurs proposent la création d'une justice mixte de type hybride qui pourrait être constituée de magistrats étrangers et congolais. Comment vous accueillez une telle proposition?
La première question étant celle des suites judiciaires ou transitionnelles à donner à ces événements. Les magistrats étrangers peuvent, parce que nous sommes encore en train d'élaborer notre position. À la limite, elles peuvent. Ce n'est pas quelque chose que nous excluons a priori. Ce que nous excluons par contre, c'est cette prise totale du contrôle. Parce que, vous savez, dans le rapport, il est clair que les rapporteurs souhaitent que les rôles clés dans la magistrature soient joués par ceux qu'ils appellent les acteurs internationaux. C'est-à-dire que nos juges à nous, nos professionnels à nous, seraient un peu les auxiliaires des internationaux en question. Cela ne peut pas s'imaginer 50 ans après l'indépendance. C'est impossible que nous acceptions cela. Par contre, ce que le ministre dit, c'est que nous pouvons envisager, nous partageons ce point de vue, que des experts internationaux servent d'auxiliaires, de soutien à la justice congolaise. La justice congolaise est là. Elle a ses travers, mais quel est ce corps social qui n'en a pas? Dans quel pays? Il ne faut pas essayer de broder sur les travers de la justice congolaise pour déposséder les Congolais de leur souveraineté. C'est tout ce que nous disons. Mais nous trouvons cette idées assez intéressantes dans le rapport.
Vous avez annoncé l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation des années 70. Peut-on connaître le montant de cette indemnisation?
D'abord, c'est une affaire de gros sous. Ça approche du milliard. Lorsque nous faisions des folies ici dans les années 70, on ne se rendait pas compte dans quel gouffre nous enfoncions le pays. Aujourd'hui, on évalue, bon an, mal an, à près de 800 millions, le total qui est dû à ces opérateurs économiques qui ont été spoliés. Bon, avec les négociations, nous sommes arrivés à fractionner cela et la première séquence dont le gouvernement parle maintenant, c'est une séquence de 5 millions de dollars qui va être libérée en faveur de ces gens, quitte à ce que d'autres séquences suivent. Et ils ont consenti d'importantes remises au gouvernement pour faciliter les choses.
Concrètement, cette indemnisation sera effective quand?
Ben, le gouvernement l'a annoncé, c'est que nous sommes dans la phase maintenant de mise en œuvre, considérant que ça a déjà commencé. Je ne pense pas qu'il y a un coin de ce pays où des biens, des commerces, des boulangeries, des boucheries, des sociétés de transport n'ont pas été zaïrianisées à l'époque.
Confirmez-vous la reprise du signal de RFI et avec quelles restrictions?
Il n'y a pas de restrictions. Je pense que nous savons tous pourquoi RFI a été coupé de retransmission dans ce pays. Il s'agissait d'un problème de sécurité bien circonscrit. Nous avons reçu la haute direction de RFI pour leur dire que nous ne cherchions pas un traitement de faveur. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons simplement un traitement équilibré, professionnel de l'information. Et nos amis ont convenu avec nous qu'un effort serait fait dans ce sens. Donc, les choses ont repris. Nous reprenons nos relations là où nous les avions arrêtées il y a un peu plus d'un an.
Qu'est-ce qui se passe actuellement après la mort du Congolais Armand Toungoulou?
À première vue, M. Armand Toungoulou s'est suicidé. Mais à première vue. Et le gouvernement, aussi bien que le parquet, ne se contente pas des choses de constatation de première vue. C'est une mort suspecte. Toungoulou n'a pas laissé un message qui permette d'affirmer ou d'infirmer cette version. Aussi, le parquet a-t-il décidé d'ouvrir une enquête. Et cette enquête est en train de se dérouler. C'est seulement cette enquête qui permettra de confirmer la thèse du suicide ou de l'infirmer, c'est-à-dire la démentir. Si la thèse est démentie, c'est qu'il a été tué par un facteur extérieur, il faudra le déterminer. S'il y a une faute de commise ou un crime de commis, il va falloir poursuivre. Mais si c'est un cas de suicide, à ce moment-là, le dossier sera clos sur le constat que ça a été un suicide. Mais tout ceci dépend des conclusions auxquelles parviendront les magistrats sur base de ce que la police scientifique et les médecins légistes sont occupés à faire maintenant.
Le gouvernement accepte-t-il de remettre son corps à sa famille qui le réclame pour inhumation en Belgique?
Je pense que c'est une étape qui viendra après le complément des enquêtes parce que c'est une mort suspecte. La famille l'a définie ainsi. Nous aussi, nous définissons cela comme une mort suspecte. Et donc, toute mort suspecte appelle une enquête. Ce n'est qu'après que le corps sera remis à la famille comme il se doit.
Où se trouve actuellement le général Faustin Munene?
D'après les informations qui nous sont parvenues, il est entre les mains de la justice militaire. Vous savez, c'est un militaire qui est en train de chercher chercher des informations auprès du général Bounenet sur des faits qu'on nous dit infractionnels et criminels, mais sur lesquels le parquet ne nous a encore rien dit, le parquet militaire, parce que l'instruction à ce niveau est tout à fait secrète.
Qu'est-ce qui lui est reproché?
On le comprendra, puisqu'à l'issue de la phase préjuridictionnelle de l'instruction, le parquet militaire a l'habitude de diffuser un communiqué avant la phase publique du procès comme tel.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.